11h midi, Studio B.
Studio B.
Et qui toi, frère?
Bah, c'est moi, ça.
Ah, vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
C'est vrai que vous cherchez les sparring,
plus que du chômage, plus que du RSA.
Bon, fou, j'en tournerai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux là, devant maman?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi, t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On est pas d'accord, on est pas d'accord.
Non, voilà, on est pas d'accord.
Il est temps de prendre ton envol.
Venez,
suivez-moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un Bécom Big Bazar, mais organisé quand même. Bonjour, bienvenue dans Studio B, moi c'est Christophe, et avec Camille jusqu'à midi. On va vous parler de cinéma. Comment ça va, Camille?
Eh bien, ça va très bien, vu que nous sommes en plein festival de Cannes, oui. Et quand c'est Cannes, moi je me sens forcément bien.
Oui,
et que je sais que Leonardo DiCaprio va venir en France. Bon, il sera à Cannes, moi à Paris. Mais il sera quand même
ça
proche
va être loin
de moi.
Quand même. Hein. Il sera plus proche que toi
bah
d'habitude,
oui.
Tu veux
bah
dire.
C'est ça.
C'est
donc
pas faux, c'est
voilà,
pas
je me sens bien.
Non, c'est bien, il lui en faut peu, Camille.
Bah oui, exactement.
Programme chargé cette semaine. On va aller voir ce qui se passe à Cannes et aux alentours. On va aussi rediffuser une partie de l'émission de la semaine dernière. On va vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, dans moins de 2 minutes, je vous donnerai ma sélection des sorties ciné de la semaine prochaine. Un film cannois, justement. Un nouveau Disney adapté en images réelles. Et la suite d'un film sorti en 1966 et avec la même équipe en plus. Et puis toi, Camille, tu nous donneras ta sélection télé de la soirée, de ce soir.
Oui, alors ce soir, on regarde Babel. Alors on s'éloigne pas tellement. Cannes, vu que c'est un film qui a été réalisé par Alejandro González Iñárritu, qui n'est autre que le président du jury cannois en ce moment.
Très bien, il est génial en plus ce film.
Oui, très beau.
J'ai hâte que tu nous en parles à 11h30. Le rendez-vous actu, box-office tout d'abord, et on prendra des nouvelles des Avengers notamment, et puis les news sélectionnées par Camille, des news cannoises j'imagine.
Bah, bien sûr, là on est en plein festival de Cannes, donc je vais vous parler de Cannes et encore de Cannes, donc du premier choc de la croisette. Du premier scandale de la croisette. Et je vous ferai aussi un petit tour des brèves en s'éloignant un petit peu de Cannes. Mais bon, on y reste toujours quand même un petit peu.
Oui, forcément, cette semaine, on parle de Cannes. On ira un tout petit peu à côté de Cannes dans cette émission, puisque nous aurons par téléphone depuis Mandelieu-lès-Napoule, à côté de Cannes, à quelques kilomètres à peine, les 2-3 kilomètres à peine de Cannes. Nous aurons Pascal Lombardo, c'est le programmateur de Vision Sociale, un festival parallèle organisé par les CE de l'EDF et de la SNCF notamment, et qui fait cette année un focus sur le jeune cinéma méditerranéen, il nous en parlera. Et puis aux alentours d'11h35, nous rediffuserons la fin de l'interview de Sophie Vernet, la réalisatrice d'Inch'Allah peut-être, dont on n'a pas pu diffuser la fin la semaine dernière, pour des raisons indépendantes de notre volonté pour faire plus simple. Et on voulait vraiment vous diffuser cette interview parce qu'on a beaucoup aimé cette série documentaire qui parle de 6 jeunes Palestiniens qui sont venus étudier en France et qui reviennent ensuite dans leur pays. On voit comment ça se passe aujourd'hui en Palestine. C'est une très belle série documentaire à voir gratuitement sur France TV/. Et donc, on voulait vous en reparler. Voilà pour le programme. Vous écoutez Studio B. Bienvenue. Nous sommes le dimanche 19 mai. Bienvenue donc dans le 97e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et ce mercredi, nous pourrons aller voir Le Jeune Ahmed.
Oui, c'est le nouveau film des frères Dardenne, film en compétition cette année au Festival de Cannes. Ils pourraient être les premiers à remporter une 3e Palme d'Or après celle qu'ils ont obtenue en 99 et 2005. C'est deux habitués de la croisette puisqu'ils ont eux aussi eu le prix du scénario en 2008 et le Grand Prix en 2011. Ils proposent donc un nouveau film cette année ancré dans le social avec ce jeune Ahmed de 13 ans en Belgique qui hésite entre vivre sa vie d'ado et suivre les consignes de son imam, très strict, voire même carrément extrémiste. Bande annonce.
Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Hein. Essaye de faire celui-là.
A moins B fois A plus B égale A carré. Ah, c'est mon frère, j'y vais.
Ahmed,
pourquoi tu vas là-bas?
Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre.
Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux?
Je peux pas lire le Coran avec une femme.
Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur?
C'est pas un menteur.
Si, c'est un menteur, Ahmed.
Ahmed?
Le mieux, c'est que je te convise tout de suite à la police. Pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché.
Ils vont m'enfermer longtemps.
Non, t'es trop jeune. Peut-être un mois ou deux.
C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais.
Allez, Ahmed!
C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un, et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed!
Ahmed!
Allez,
laisse-moi faire ma vie!
Voilà pour la bande-annonce de ce film Le Jeune Ahmed, film qui ne sera projeté que demain à Cannes, donc très peu d'infos ont filtré pour l'instant. Les frères Dardenne ont tout de même annoncé que ce n'est pas un film centré sur la radicalisation, mais c'est plus un film sur un enfant, donc centré sur le personnage de ce petit Ahmed. Autre film qui sort à Cannes, sorti décalé le vendredi 24, c'est le jour de la projection, le film Sibylle, l'histoire d'une psy qui est fascinée par une de ses patientes, actrice. Elle est enceinte de son amant, et son amant c'est le mari d'une réalisatrice avec qui elle travaille en ce moment, donc ça fait un bazar pas possible tout ça. Un film avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos qui sort donc vendredi prochain, le même jour de la projection à Cannes.
Et il y a aussi Aladdin qui
sort.
Ah
voilà, pour le plus grand plaisir de Camille, Disney sort une nouvelle adaptation en images réelles d'un grand classique d'animation. Aladdin prend le visage de Mena Massoud, acteur canadien d'origine égyptienne qui est surtout apparu dans des séries, et Jasmine, celui de Naomi Scott, une londonienne vue dans Power Rangers. Mais le plus attendu, c'est le génie Will Smith, un génie qui a le sens de l'humour.
Hé hey, génie, fais-moi prince.
Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince.
Oh, non, non.
Vous n'auriez pas vu mon palais ?
Alors forcément, quand on pense à Aladdin, on pense aussi à la BO du film. Oui, bah oui, ça rêve bleu, quoi, forcément.
Ah bah oui.
Il y a aussi le fameux Prince Ali, où c'est bien lui, etc. Ah avec oui. L'arrivée grandiose d'Aladin et toute sa ménagerie. Cette scène-là a nécessité 250 danseurs et 200 figurants. Aladin arrive sur un chameau de 9 mètres, construit en 3 mois par 15 maquettistes, avec 37 000 fleurs posées sur un châssis en métal. C'est vraiment des chiffres. Il y a vraiment eu beaucoup de travail sur les décors. Le tournage s'est fait dans le désert de Jordanie et au Royaume-Uni. Il a fallu plus de 3 mois pour construire en plein air la cité d'Agrabah. Un gros projet. Il n'y a plus qu'à voir le résultat.
Oui. Alors, ensuite, je n'irai pas, personnellement.
Ah oui, je m'en doutais bien.
On peut aussi aller voir les plus belles années d'une vie.
Quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Les voix de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée dans Un homme et une femme, comédie dramatique de Claude Lelouch sortie en 1966. 53 ans plus tard, la suite sort avec les mêmes acteurs et les mêmes réalisateurs.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ?
J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez.
Alors en fait, le monsieur a bien vieilli et perd un peu la mémoire. Alors son fils retrouve cette femme qu'il avait aimée, dont il parle tout le temps. Leur histoire va reprendre là où elle s'est arrêtée. Je voulais vous en parler parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on retrouve la suite d'un film avec la même équipe 53 ans plus tard. C'est même assez inédit dans l'histoire du cinéma.
Oui, puis Jean-Luc Trintignant se fait assez rare au cinéma. Donc c'est toujours un moment exceptionnel de le voir à l'écran. À voir aussi cette semaine.
Une part d'ombre, un thriller où un père de famille bien sous tout rapport se fait interroger par la police sur une enquête pour meurtre. Toute sa vie va donc basculer. La bande-annonce fait plus penser à un polar qu'à un thriller, mais il devrait y avoir du mystère et du suspense. Sortons également ce mercredi John Wick Parabellum. Alors là, on est dans le gros film d'action avec ce pauvre John qui se retrouve une nouvelle fois poursuivi par tous les plus dangereux tueurs au monde. Et puis enfin, Stubby, l'histoire vraie en film d'animation du chien Stubby. Tu connais Stubby ?
Non, qui est Stubby ?
Et ben, c'est le chien de guerre le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Un chien de guerre, il était en étranger, il était vraiment avec l'armée, véritable héros à l'époque aux États-Unis. Film produit par un studio d'animation français avec la voix de Gérard Depardieu en plus. Voilà pour les sorties de la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ? Un film génial, Camille.
Oui, on regarde Babel ce soir à 20h55 exactement sur Arte. Donc comme je disais, on reste un peu à Cannes puisque Babel est réalisé par Alejandro González Iñárritu, le président du jury cannois. Et d'ailleurs, Babel a été présenté en compétition au 59e Festival de Cannes. C'était la première fois que le réalisateur était en compétition. Donc Iñárritu, c'est avant tout un immense réalisateur qui n'a pas peur de donner dans la fresque de 2h15 ici pour Babel, ou alors 2h36 pour The Revenant. C'est lui qui a réalisé aussi The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Et dans le cas de Babel, on peut en effet vraiment parler de fresque, puisque le film sorti en 2006 est la conclusion d'une trilogie qui avait été commencée en 2000 par Amour chienne et suivie en 2004 par 21 grammes. Les trois films suivent le même principe, chacun raconte le destin croisé de plusieurs personnages qui sont unis par la mort. Alors pas d'inquiétude, vous pouvez regarder Babel sans avoir vu les deux premiers films, puisque chaque histoire est bien sûr indépendante. Et pourquoi faut vraiment pas se priver de regarder Babel ? Parce qu'il fait partie de ces films aux grands drames et donc aux grandes émotions. Il y montre l'humain qui est ici dépouillé de tout orgueil puisqu'il se retrouve face à la mort d'un proche. C'est un puzzle de destin brisé dans des pays, des cultures et des langues différentes. Babel, rappelons-le, c'est quand même dans la Bible le nom de cette tour qui n'a jamais été construite faute de langue commune. Et dans le film Babel, Iñárritu montre, lui, que le manque de compréhension engendre la peur et c'est toujours la violence qui est la première réponse. Babel, ce soir à 20h55, c'est aussi et surtout l'occasion de confirmer que Brad Pitt fait partie des très grands acteurs. Il joue ici un de ses rôles les plus puissants et pour ça, rien que pour ça, restez sur votre canapé ce soir.
Et c'est un magnifique film, il y a une grosse partie qui se passe au Maroc, hein, notamment,
oui.
Avec vraiment des belles images. C'est vraiment
très bien tourné, c'est
vraiment très très beau. C'est un de mes films préférés, vraiment.
Ah,
si on ne doit pas t'écouter jamais,
pas,
juste aujourd'hui on t'écoute.
Ah, d'accord. Non mais oui, Iñárritu, il est connu aussi pour avoir un directeur de la photographie, celui qui donc rend les images à l'écran absolument formidables. Et rien que pour ça, rien que pour la beauté de l'image, allez-y aussi. Enfin, tout est formidable dans ce film.
Un vrai beau film à voir ce soir sur Arte. Merci Camille. On continue ce Studio B. On va aller en direction de la Napoule. La Napoule, c'est une ville juste à côté de Cannes où se passe le festival Vision Sociale, une sélection parallèle au festival de Cannes. En plus, c'est très bien parce qu'on peut y aller gratuitement, sans smoking, etc. C'est ouvert à tous. C'est une belle sélection parallèle du festival de Cannes, Vision Sociale. On en parle avec le programmateur Pascal Lombardo juste après la pause. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B, avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On est là tous les dimanches, entre 11h et midi. Et forcément, on ne peut pas parler de cinéma sans parler de Cannes cette semaine. On va aller à Cannes, mais c'est pas vraiment à Cannes qu'on va aller. On va aller juste à côté, à la Napoule, où a lieu en même temps que le festival de Cannes, un festival incroyable. On va dire un festival parallèle, ça s'appelle Vision Sociale, et c'est Pascal Lombardo qui est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM, vous êtes donc le programmateur de ce festival Vision Sociale. Camille.
Pascal Lombardo, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est Vision Sociale ?
Alors, Vision Sociale, c'est un festival dans le Festival de Cannes. On pourrait dire même une sélection parallèle. Mmh. Le but est simple, c'est montrer le cinéma autrement, de défendre des cinémas d'auteur, des jeunes cinéastes qui viennent du monde entier. Alors, cette année, ça sera plus particulièrement le jeune cinéma méditerranéen. Et donc, nous avons atteint les 50-50 avant 2020, puisque dès cette année, nous aurons plus de 60% des films qui seront présentés. Il y en a une trentaine quand même, qui ont été réalisés par des femmes. Et ça, c'est très important pour nous par rapport à l'action que nous menons, l'action culturelle, mais pas seulement culturelle, politique, de montrer à quel point il est important qu'il y ait une parité dans la création contemporaine, artistique.
Oui, justement, je voulais aborder ça, la présence des femmes qui est très grande dans votre sélection. Contrairement à la section officielle cannoise, où elles sont 14 sur les 48 films annoncés, ce qui n'est pas du tout paritaire encore, est-ce que c'est une volonté, voilà, à Cannes, vous voyez qu'il y a un problème, enfin dans le cinéma en général, et vous avez tenu vraiment à avoir une parité, même avoir plus de femmes que d'hommes cette année?
Oui, tout à fait, et notamment en ayant avec plaisir et honneur une marraine, Claire Burger, qui sera présente, qui représente la jeune génération des cinéastes françaises. Claire Burger était déjà venue à Cannes en 2014, où elle a obtenu la Caméra d'Or. Elle revient avec ses Salles Amour, qu'elle présentera dès samedi soir, le dimanche soir également, Party Girl, pour laquelle elle a obtenu la Caméra d'Or. Oui, pour nous, c'est un choix délibéré, mais depuis plus de 25 ans, il y a 25 ans, on faisait une thématique autour de l'Algérie, au moment où on vivait les années sombres pour l'Algérie. En 98, c'était Noir, Black, Negra, c'était autour des cinéastes noirs du monde entier, pour montrer que tous ces cinéastes n'avaient pas leur place comme il se doit à Cannes. Et en l'an 2000, nous avions fait même une manifestation qui s'appelait Universel, où 100% des cinéastes étaient des femmes. Vous voyez, donc on était quand même très précurseurs par rapport à cette question de la parité et pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes cinéastes en compétition à Cannes, même si on en retrouve dans les autres sélections, la quinzaine des réalisateurs, la CID ou la semaine de la critique.
Oui, où l'effort est beaucoup plus fait dans les sections parallèles, en fait, finalement.
Oui, tout à fait. Parce que ne nous leurrons pas, hein, lorsque Thierry Frémaux a présenté sa programmation, on a bien vu que les femmes cinéastes étaient surtout dans Un certain regard, même si Un certain regard fait partie de ce qu'on appelle la sélection officielle.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que Vision Sociale est un festival, une sélection engagée ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'engagement ?
Oui, vous avez raison, c'est un festival engagé. Nous aurons d'ailleurs le premier parrain de Vision Sociale il y a 17 ans qui sera avec nous toute la journée de dimanche, le dimanche 19 mai. Il s'agit de Robert Guédiguian. Vous l'avez remarqué, Robert n'est pas en compétition à Cannes et on le regrette bien avec son dernier film, Gloria Mundi. Alors il ne présentera pas chez nous Gloria Mundi, il viendra avec une histoire de fou, un film magnifique sur l'Arménie dont il se dit l'ambassadeur. En tant que cinéaste, oui, bien sûr, c'est un festival engagé. Lorsque nous avions choisi, il y a 17 ans, Robert Guédiguian, nous voulions montrer, à travers sa présence, l'engagement de la CCS auprès de ses cinéastes, ses auteurs, ses cinéastes engagés. Et c'est pour nous un honneur que de le retrouver dimanche. Et quand vous dites cinéma engagé, oui, puisque nous aurons également le film de Lech Kowalski qui a été présenté hier à la Quinzaine, que les spectateurs pourront retrouver chez nous mercredi 22. On va tout péter. Il y a un film, un documentaire magnifique sur la lutte des GMS. Nous les avons accueillis d'ailleurs. Ils étaient hébergés chez nous au centre de la Napoule, centre de vacances de la Napoule. Hier, c'est un honneur pour nous d'accueillir ces hommes et ces femmes qui se sont battus et qui continuent à se battre pour garder leur travail. Oui, oui, le festival Vision Sociale, comme son nom l'indique, est un festival engagé. Mmh.
Alors, vous parlez de l'engagement de la CCAS. La CCAS, c'est le comité d'entreprise des entreprises de l'énergie, EDF notamment. C'est l'organisateur de Vision Sociale, mais ce n'est pas le seul comité d'entreprise qui organise ce festival.
Alors, c'est l'organisateur principal, mais nous le faisons avec d'autres CE, effectivement. Le CE des cheminots sera présent, puisqu'ils ont souhaité présenter un film de Paul Carpita, qui était un autre cinéaste engagé, Les Sables Mouvants, que nous avions accompagné la CCAS en termes de production en 1995. Oui, il y a d'autres CE qui sont autour de nous, il y a forcément des fédérations syndicales, il y a une présence importante, et nos partenaires qui sont la CID, la Quinzaine des réalisateurs, la Semaine de la critique, et bien sûr le Festival de Cannes. Il y a vraiment un travail main dans la main avec tous ces gens qui se battent pour le cinéma d'auteur.
Vous le disiez tout à l'heure, Vision Sociale couvre un large spectre de fiction. Donc il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a des films d'animation aussi avec la présence du film Wardi. On avait d'ailleurs rencontré le réalisateur Mats Gorud dans l'émission. Comment vous choisissez, vous êtes le programmateur, comment vous faites pour choisir parmi tous ces genres, tous ces films ?
Alors, écoutez, c'est très simple. On fait, comme tous les programmateurs, on fait le tour des festivals en amont, hein, que ce soit des festivals dont nous sommes partenaires, le très beau festival de Montpellier Cinémed, qui fêtait ses 40 ans cette année et que nous accompagnons depuis près de 25 ans, le festival Premier Plan d'Angers, Ciné Latino, et on regarde ces films très, très en amont. Et la thématique étant le jeune cinéma méditerranéen, on a voulu donner à voir, à travers ces 30 films, toute la création cinématographique du pourtour de la Méditerranée. La France, bien sûr, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Syrie, c'est important pour nous d'avoir la Syrie, Israël, la Palestine, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tout ce que compte la cinématographie méditerranéenne sera présente. On ira au-delà également avec la Turquie, avec la Géorgie, avec la Roumanie. C'est vraiment et le Liban, j'allais oublier le Liban avec Chacun s'abonne. Tout ce que compte la création cinématographique, la jeune création cinématographique sera présente avec nous. Mais pas que. Je vous parle de Premier Plan d'Angers avec le film magnifique d'Antoine Rusbach, Ceux qui travaillent, qui pose la question de jusqu'où on est prêt à aller pour conserver son travail. Non pas en avoir un, mais pour le conserver. C'est un film à découvrir qui est magnifique.
Cette année, comme vous le dites, votre sélection est focalisée sur le Festival méditerranéen. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est une scène privilégiée aujourd'hui des nombreux événements de notre époque, comme la traversée des migrants, le conflit en Syrie, la crise économique en Grèce.
Oui, tout à fait. C'est ce qui a guidé notre choix à travers le film de Nikos Labo, Her Job, qui témoigne de la vie des femmes précaires, justement, en Grèce, de la crise économique de la Grèce, bien sûr, les conflits autour de la Méditerranée, les révolutions arabes, l'Égypte, la Tunisie, ce qui se passe actuellement en Libye, le conflit israélo-palestinien, bien évidemment, les migrants, malheureusement, chaque année, nous abordons cette question. Oui, la Méditerranée, on le voit encore avec le déploiement des porte-avions américains dans la Méditerranée, on pourrait dire que c'est une cocotte minute, la Méditerranée, oui. et elle est au centre. Pour nous, c'était important d'avoir cette réflexion au moment de Cannes, de dire... Que se passe-t-il, et y compris l'Italie, puisque le film d'ouverture de Vision Sociale et le film de Laura Lucchetti, Fior Gemello, qui pose la question des migrants, et d'où on est au moment où on va voter dans quelques jours pour les élections européennes, où on en est de l'Europe actuellement, l'Europe italienne, espagnole, française, et de quelle volonté politique on a envie de mettre en avant.
Donc Vision Sociale, c'est en ce moment pendant le Festival de Cannes. Je voudrais terminer avec cette question. Qu'est-ce que possède Cannes que les autres festivals n'ont pas? Qu'est-ce qui fait que ce festival est si particulier?
Le Festival de Cannes, il a cette dimension magique, c'est la dimension internationale, solidaire, Thierry Frémaux le disait. Ici, tous les cinéastes bannis dans leur pays, on a pu le voir avec les cinéastes iraniens, mais pas seulement, eh bien, ils ont leur place à Cannes. Et la CCS, en organisant Vision Sociale, c'est aussi accompagner le travail de Thierry Frémaux et des autres sélections, de dire, ici, à Cannes, chers cinéastes du monde entier, même si vous êtes rejetés, exclus et condamnés dans vos pays, eh bien, ici, vous avez toute votre place pour vous exprimer, et d'autant plus lorsqu'il y a une dimension sociale dans leur travail.
Merci beaucoup, Pascal Lombardo. Ah,
une dernière question. Vision Sociale, si on veut y assister, comment on fait?
Ah,
si
oui.
On veut aller voir les films.
Alors, c'est très simple. Vous voyez, toujours le même principe. Nous sommes ouverts à tous. C'est gratuit. Pas besoin d'accréditation, pas besoin de badge. Il suffit de vous présenter au Château des Mineurs, à la Napoule. Il est assez connu dans la région, d'ailleurs, par les gens du coin. Ils viennent, c'est souvent complet. Donc, il faut venir un peu à l'avance, hein, quand même. Mais c'est ouvert à tout le monde. Pas besoin d'accréditation, pas besoin de badge.
Voilà, c'est pas gratuit. Le côté select de Cannes, quoi.
Voilà.
Pas
voilà,
besoin de costume voilà. Non plus.
Pas besoin de costume, vous venez en décontracté. Et je veux vous dire qu'à chaque représentation, à chaque projection, les réalisateurs seront là. Ils viennent de toute la Méditerranée, donc vous aurez la chance de pouvoir les rencontrer et poser leurs questions, vos questions.
Merci beaucoup Pascal Lombardo.
Merci.
Une autre vision du Festival de Cannes, Vision Sociale, c'est en ce moment à la Naples.
Studio B, l'actu ciné.
On commence par le box-office et après les gros chiffres des deux dernières semaines, on retombe sur des chiffres plus classiques. Avengers 4 reste en tête avec 832 000 spectateurs supplémentaires pour un total de 6 millions. Il devrait aller chercher qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui n'est plus qu'à 700 000 spectateurs à la place du plus gros succès de l'année 2019 en France. En seconde place, surprise, c'est Pokémon Détective Pikachu qu'on n'attendait pas si haut, 740 000 entrées, suivi par Nous finirons ensemble qui rajoute 700 000 spectateurs sur sa deuxième semaine d'exploitation. Au pied du podium, on retrouve les crevettes pailletées, beaucoup de promos, mais j'ai presque envie de dire seulement 253 000 spectateurs. Et en cinquième place, c'est Hellboy qui ne fait que 152 000 billets vendus. Forcément, c'est pas facile d'être un super-héros quand on a les Avengers en face. Justement, où en sont les Avengers au box-office mondial? Avec les chiffres sortis en début de semaine, les recettes montent à 2 485 millions de dollars, c'est-à-dire tout près des 2,7 milliards d'Avatar. À l'heure où je vous parle, avec le retard entre la parution des chiffres et les entrées réelles, c'est probablement déjà le film le plus lucratif de tous les temps. Voilà, Avengers 4, c'est le succès annoncé. Des actus, qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité de la semaine, Camille? On commence par aller à Cannes, forcément,
oui.
Le premier électrochoc de la Croisette est français.
Oui, c'est mercredi que la Croisette a vibré pour la première fois. Et le responsable, c'est le réalisateur Ladj Lee et son film Les Misérables. Donc, c'est son premier long métrage et il est adapté d'un fait réel, une bavure policière sur un jeune homme noir qui s'était produite à Montfermeil en Seine-Saint-Denis en 2008 et que le réalisateur avait filmé lui-même en direct. Donc, les différentes critiques parlent d'un film culte, d'un électrochoc ou encore d'un pendant contemporain à la haine. Donc ça s'annonce plutôt bien. Le film n'a pas encore de date de sortie, mais est déjà très attendu.
Celui-là, c'est sûr, il va sortir.
Oui.
Des fois, il y a des films qui sont programmés à Cannes qui ne sortent pas au final ou qui ne sortent pas en France. Là, vu le succès, c'est
oui, sûr. Oui, là vraiment, enfin, les critiques ont été toutes dithyrambiques. Donc ça va sortir en France, mais prochainement. Donc on ne sait pas encore.
Alors, c'était le premier électrochoc, mais il y a déjà le premier scandale de la Croisette.
Oui, qui dit Festival de Cannes dit aussi scandale, bien sûr. Alors, le premier concerne une réalisatrice anglaise, Greta Bella Macina, qui n'a pas pu rentrer au marché du film car son bébé de 4 mois n'avait pas d'accréditation. Bah. Alors, oui, bon, elle a d'abord été.
Les bébés maintenant.
Oui, c'est complètement ridicule. Donc, elle a d'abord été interdite d'entrer avant qu'on lui demande quand même 300€ pour une accréditation déléguée. Donc ça fait une jolie somme. La réalisatrice se dit sidérée par l'absurdité de la situation et on la comprend, comme si les femmes réalisatrices avaient besoin de nouveaux obstacles dans la course à l'égalité dans notre industrie, déclare-t-elle. Et donc le festival parle, lui, de son côté, d'une erreur de communication.
Et ce qui est drôle, justement, c'est qu'elle venait présenter, enfin parler d'un film qui est sur le problème que ont les femmes pour...
Oui, en plus, c'est ça, l'ironie est là.
Ça relie vraiment le sujet et ce qui lui arrive dans la vie. Une carioca géante sur la Croisette. Allez, carioca.
C'est
une
Allez.
Ce n'est pas un force.
Oui, alors je vous en parlais il y a quelques semaines de ça. Une pétition avait été lancée pour qu'à l'occasion de la projection de la Cité de la Peur, une carioca soit dansée sur la scène du Palais des Festivals. Finalement, la carioca géante a eu lieu. Bon, pas sur la scène du Palais des Festivals, mais sur les Allées de la Liberté à Cannes. Et c'était jeudi dernier, à l'occasion de la projection du film. Puisque donc la danse a eu lieu en forme de flash mob géant, effectué par les fans de la comédie. Rappelons quand même que La Cité de la Peur fête ses 25 ans cette année et ressortira au cinéma le 6 juin prochain. C'est pour ça qu'il a été projeté à Cannes sur le cinéma de la plage. Donc c'est un écran qui est installé sur la plage, sur la Croisette, où on peut voir un tas de films, et dont cette année, La Cité de la Peur.
Culte ce film.
Tout
très
à
envie
fait.
De retourner le voir en salle quand il ressortira.
On va se faire ça.
Trois infos en bref pour terminer avec des pétitions.
Oui, la première pétition, c'est contre la Palme d'honneur qui sera remise à Alain Delon. Et cette pétition a recueilli quand même 22 000 signatures. C'est l'organisation américaine Women in Hollywood qui accuse l'acteur d'être raciste, homophobe et misogyne.
Rien que ça.
Rien que ça, voilà. Et puisque en ce moment, il n'y a pas que Cannes, il y a aussi Game of Thrones, une autre pétition a été lancée réclamant la réécriture carrément de la dernière saison. Et cette pétition a recueilli 300 000 signatures quand même. Donc ça ne plaît pas à tout le monde.
Ça, j'en étais sûr, c'était à prévoir.
Ouais, bon bah moi je peux rien dire, je ne l'ai pas vu. Donc je ne vous spoilerai pas, ne me spoilez pas. Merci.
Ok, d'accord.
Et bonne ou mauvaise nouvelle pour certains, je ne sais pas. Un jour de pluie à New York, le prochain film de Woody Allen sortira bien en France. Rendez-vous donc le 18 septembre prochain dans les salles. Sachant que le réalisateur a quelques difficultés en ce moment à sortir ses films et à même sortir son autobiographie prévue.
Oui, puisqu'il fait face à des accusations, notamment de viol, etc.
Exactement.
C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour lui en ce moment.
Voilà. Mais en France, en tout cas, son film va sortir.
Très bien sortir. Bon, voilà pour ces news. On va continuer ce Studio B avec la dernière partie où nous allons rediffuser l'interview de Sophie Vernet. Elle était venue la semaine dernière nous parler de Inch'Allah peut-être pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous n'avons pas pu diffuser la semaine dernière. On s'arrêtait là la semaine dernière vers 11h35. Voilà, pouf, on a disparu.
Sans dire au revoir, c'est pas très sympa.
Oui, tu es mal poli, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ah bah oui, ça retombe sur moi.
Il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un et c'est pas de ma faute, donc
oui,
ce sera toi, voilà. Donc,
okay.
On n'a pas pu diffuser la fin de l'interview la semaine dernière, on l'a réenregistré et donc on va vous diffuser la suite de cette interview autour de la série documentaire Inch'Allah peut-être, une série qui suit des jeunes palestiniens qui font leurs études en France et qui reviennent ensuite en Palestine et se posent la question de savoir s'ils doivent partir ou revenir ou rester donc en Palestine. Voilà, pour la suite du programme, restez avec nous, on revient dans quelques secondes sur Beurre FM, à tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Le magazine ciné de Beurre FM est aussi série et série documentaire. La semaine dernière, on voulait vous parler d'une série documentaire qui s'appelle Inch'Allah peut-être, une série documentaire sur six jeunes Palestiniens qui donnent à voir comment la Palestine est vraiment aujourd'hui du point de vue de ces jeunes. C'est une série très intéressante pour des raisons indépendantes de notre volonté. On ne va pas citer dessus. On n'a pas pu diffuser la dernière partie de l'émission. On s'en excuse vraiment si vous nous écoutiez la semaine dernière. Et on se pardonne, on essaye de se faire pardonner comme on peut en vous rediffusant aujourd'hui ce qu'on aurait dû diffuser. La suite de cette interview qu'on voulait vous diffuser la semaine dernière. Quoi qu'il arrive, si vous nous rejoignez que maintenant, vous pouvez aussi écouter l'émission en entier, en podcast, sur beurrefm.net. On retrouve donc Sophie Vernet, la réalisatrice de cette série documentaire Inch'Allah peut-être, disponible actuellement gratuitement sur France TV/. On vous a demandé, comme à tous nos invités, de ramener un souvenir du tournage de cette série. On l'a mis en ligne sur la page Facebook de Studio B. Donc si vous voulez aller voir ce souvenir, vous pouvez vous connecter maintenant. Rajoutez-nous la page Facebook de Studio B. Donc c'est sur Facebook. C'est quoi ce souvenir? Donc c'est une vidéo, mais c'est une vidéo dont le son est le plus intéressant. En fait, c'est un plan fixe sur un banc de montage. Expliquez-nous ce qui se passe.
En fait, c'est une vidéo coulisse du tournage au moment du mix de leur voix. Dia est en train d'enregistrer son texte pour les épisodes de la série. Et puis, à ce moment où il se met à chanter Joe Dassin.
Oui.
Donc, vous pouvez écouter sa voix sur Joe Dassin et les débuts de sa carrière de chanteur. Et c'est très drôle. Et je pense que ça décrit pas mal l'énergie de cette série où il y a quelque part on rit et il y a oui. beaucoup d'autodérision en fait et d'ailleurs Farah en parle au début, en gros elle dit l'autodérision ça nous amuse en fait et quelque part bah voilà ça va avec la série, c'est un moyen d'avancer
oui.
et d'avancer malgré tout, du coup ils savent énormément rire d'eux et rire de toutes les situations. Et du coup, Dia donc, se prête au jeu de chanter Joe Dassin. Et c'est drôle.
Il chante vraiment, d'ailleurs.
Oui. Bah, on l'a gardé. Ouais. En fait, au montage, on a fini par regarder. Au montage, on l'a gardé, c'était pas prévu. Mais il
parce
chante vraiment.
Il aime Joe Dassin et Maître Gims.
Exactement. En fait, c'est une très jolie histoire, celle de Dia, qui est dans l'épisode 3 de la série. Dia a commencé à apprendre le français pour Maître Gims.
Ah, d'accord.
Et avec Bella.
Oui.
Et c'est-à-dire, c'est parce qu'il a aimé Bella qu'il s'est dit « Ok, je dois comprendre ce qu'il écrit ». Et du coup, il s'est mis à apprendre le français avec les textes de Maître Gims. Donc, c'est ça qui lui a donné envie d'apprendre le français. Après, il a appris le français et il a découvert...
Autre chose,
dont Joe Dassin. Une passion sans borne pour Joe Dassin. Et aussi, il s'est plongé à corps perdu dans la littérature française. Donc, généralement, quand j'y vais, je lui ramène des livres. Et la dernière fois, il m'a commandé Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et
oui,
aussi Jules Verne.
Ouais, lire.
Voilà, c'est ça. Et il ressemble un peu tous à ça, à ses contradictions, à ses contraires qui s'attirent.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui les a attirés? Parce que donc, ils apprennent tout le français. Pourquoi le français particulièrement?
Alors, le français a une place importante en Cisjordanie et en Palestine. Historiquement, la France et la Palestine ont toujours eu des relations. On regarde les choses sur un plan politique, en fait. Il y a toujours énormément d'échanges et la diplomatie française a toujours joué un rôle de médiateur, que ce soit dans le conflit
oui.
ou avec la Palestine. Donc, ça fait déjà un ancrage. Ensuite, au sein des universités, la France est très présente à travers les consulats, avec les échanges pour la francophonie et les bourses d'études. Donc, forcément, le français est aussi une façon d'étudier et d'avoir des bourses d'études pour partir dans des universités à l'étranger. Donc, forcément, la France a une histoire particulière.
Oui, ils sont tous allés en France.
Pas tous. Enfin, tous à un moment.
Oui, à un moment donné, oui.
Où ils ont failli.
Voilà.
Où ils ont failli.
Mais elle a déjà été en France, je me souviens plus de
oui,
son prénom.
Oui, Lourdes a déjà voilà. été en France quelques semaines. Elle devait partir comme les autres pour son cursus. Et au dernier moment, avant de monter dans l'avion, non,
ouais.
elle ne part pas. Elle n'arrive pas à quitter justement la Palestine.
Donc, ils sont tous allés en France à un moment donné, en tout cas. Et même, on voit à un moment donné, donc, quand les élèves sont en France, une jeune fille qui vient de Gaza. Donc, c'est la question, on arrive à la question que vous vouliez qu'on vous pose. Et c'est vrai qu'en voyant la jeune fille qui vient de Gaza, on se dit, c'est dingue. Donc, ils peuvent aussi faire des échanges alors qu'on a une vision de Gaza complètement bloquée. Où ils ne peuvent pas sortir voilà, de la bande de Gaza. Quoi.
Ce qui est le cas. Mmh. Ce qui est le cas, on ne sort pas et on ne rentre pas de la bande de Gaza comme ça. C'est dans l'épisode 6, Asmahan est partie, qui elle est de Jéricho, est partie du coup, étudier à Toulouse. Et il se trouve qu'elle rencontre Tamara, qui elle est une jeune fille de Gaza. Tamara a pu sortir parce qu'elle a eu une bourse d'études en fait, de 2 ans pour faire un master en France avec... un projet avec le consulat français et aussi du coup pour la Palestine. Donc elle est à Toulouse. Et ce qui est intéressant, effectivement, et
mais c'est extrêmement rare, ça, les échanges.
Il y a quelques bourses. Ouais. Il y a quelques bourses. Après, il n'y en a pas, comment dire, les bourses en Palestine, il y a un nombre donné de bourses par an. Il n'y a pas tant de bourses attribuées à Gaza, tant de bourses attribuées à la Cisjordanie. Il y a tant de bourses sur un territoire.
D'accord.
Et voilà. Et après, pour obtenir une bourse, en gros, les jeunes donc candidatent à l'écrit et après défendent aussi un projet d'avenir pour eux devant un jury, en fait. Donc, ça dépend des années, mais effectivement, non, c'est très difficile de sortir. Les autorisations, comme d'ailleurs Tamara l'expliquait dans la série, les autorisations de sortie sont de plus en plus difficiles à obtenir. Avant, par exemple, ses parents pouvaient sortir en Cisjordanie, par exemple, elle le dit, pour si un membre de la famille, un fils, une fille se marie avec quelqu'un extérieur à Gaza, par exemple en Cisjordanie, il pouvait sortir. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. C'est un bon exemple du quotidien qui résume tout.
C'est bien que c'est la première fois qu'elle rencontre une personne de Gaza.
Exactement. Oui, c'est ça.
Il fallait qu'elle vienne en France pour rencontrer quelqu'un de Gaza.
C'est ça. Asmaan rencontre pour la première fois une Gazaoui. Et comme elle dit, il a fallu venir en France pour rencontrer quelqu'un de Gaza. Et en fait, ça paraît aberrant parce que seulement quelques dizaines de kilomètres séparent Gaza et la Cisjordanie. Seulement, il n'y a pas possibilité de circuler et d'entrer à Gaza pour les gens de Cisjordanie. Du coup, elle se rencontre en France. Et ce qui est très très fort, et ce qui au tournage nous a tous surpris, et moi la première en filmant, c'est que Asmaan se confronte à tous les clichés qu'elle pouvait avoir et les préjugés qu'elle avait sur les gens de Gaza. Comme peut-être nous pouvons avoir des clichés, des préjugés sur la Palestine. Et ça, c'est cette espèce de double miroir, de mise en abîme qui est assez saisissante. Et effectivement, Asmaan regarde très clairement Tamara en lui disant « Je suis désolée, je m'en excuse, mais je pensais qu'à Gaza, c'était hyper conservateur. Et je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui finalement me ressemble, parce que Tamara ressemble à Asmaan, en fait. »
Et même Asmaan se plaint des clichés que les Français ont sur la Palestine.
Exactement.
Elle dit, voilà, ils croient qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas parler librement, on est obligé de porter le voile. Enfin, elle en a un petit peu marre des clichés. Et là, elle se retrouve dans cette position-là, à avoir plein de clichés sur
elle-même.
Les Gazaouis. Et en fait, non.
Et ça, c'est très, très fort. Et c'est en ça qu'au fil de la série, ce qui est intéressant, c'est qu'ils évoluent aussi. Parce que finalement, ils sortent de leur zone, ils se confrontent à des choses qu'ils n'attendaient pas, en fait.
Et donc, c'est à cause de la difficulté, justement, d'aller à Gaza, de filmer à Gaza, que vous avez choisi de ne pas prendre d'élèves de Gaza, ou c'est...
Non, pas du tout, en fait. Ce n'est pas une question de difficulté, de faisabilité ou pas, en fait. C'est juste que, comme je disais, le projet est né dans cet atelier à l'université. Et le groupe était constitué, en fait. Et donc, du coup, d'ailleurs, c'est ce qui amène la diversité, en fait, parce qu'ils sont tous très différents. Mais ils étaient tous là, donc la série s'est construite avec le groupe qui existait déjà. Et il n'y avait personne de Gaza, et pour la bonne simple raison qu'en fait, ce n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un de Gaza qui étudie en Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas d'échange entre les deux. Donc, le choix... ça n'a pas été un choix qu'il n'y ait pas Gaza, c'est juste un fait, en fait. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible. Et il n'appartient pas au groupe, et la réalité, c'est qu'ils ne se connaissent pas, comme la séquence avec Asmaan et Tamara le montre, ils ne se connaissent pas. Donc ça n'a pas été un choix, ça n'a pas été une volonté, ça a été, comme on le disait au début, à leur hauteur, en fait. Gaza est loin, Gaza, c'est... Voilà, ils ont des clichés, des préjugés, c'est loin, c'est près, c'est si loin en même temps. Donc... voilà, l'idée n'a pas été d'être exhaustif et d'aller rajouter un élément, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Gazaoui en personnage principal dans la série.
Et on se demande aussi, quand on regarde la série, comment se passe un tournage en Cisjordanie? Est-ce qu'il y a des difficultés? Parce qu'on voit les passages au checkpoint. Est-ce que vous avez quand même des autorités israéliennes qui viennent un peu fouiller ce que vous faites ou pas du tout?
Alors, en Cisjordanie, non. Parce que donc, quand on est en Cisjordanie, on est en Cisjordanie. Après, effectivement, voilà, c'est tous les points de passage et les checkpoints qui sont plus nombreux et qui peuvent être aussi à l'intérieur de la Cisjordanie parce qu'il y a tout un marasme de routes, en fait, différentes entre selon quel endroit la route dessert. Mais non, Cisjordanie, il n'y a pas, comment dire, il y a pas de contrôle après.
Il y a un passage sur un checkpoint avec une caméra qu'on voit un petit peu caché quand même.
Si on veut, on sent que
la caméra n'était pas sur l'épaule. Là.
Non, effectivement, pour filmer un checkpoint ou même des contrôles. Non, effectivement, c'est pas, on peut pas filmer la caméra sur l'épaule. Il vaut mieux se cacher. Après, il n'y a pas d'autorisation particulière parce que les seuls passages, c'est les checkpoints, mais ce n'est pas différent quelque part que pour n'importe qui passe le checkpoint. En fait, c'est juste que c'est long et c'est fastidieux et on ne sait pas à quelle heure ça va se passer. C'est plus, il faut être flexible, il faut être adaptable et il faut être réactif parce que tout peut changer dans l'instant.
Oui, c'est d'où Inch'Allah peut-être. Quoi.
Voilà, exactement.
Moi, je voulais terminer avec cette question parce qu'il y a quelque chose qui m'avait marqué quand on avait reçu le réalisateur de Tel Aviv on Fire, qui nous avait dit qu'il n'avait plus d'espoir pour le conflit israélo-palestinien. Et ces jeunes ont des parents qui, eux, ont eu de l'espoir à un moment donné et ont eu des désillusions. Et pourtant, quand on regarde Inch'Allah peut-être, on a l'impression que ces jeunes sont pleins d'espoir.
Alors, ils ont un espoir pour eux, pour d'être au moteur de quelque chose. Après, non, l'espoir, ils n'en ont pas. Même si on voudrait en avoir, en fait, c'est très illusoire d'en avoir. Après, il faut le chercher ailleurs, en fait. Et c'est ça qu'ils ont trouvé dans l'idée d'être moteur et de créer quelque chose, de faire réfléchir. De mon point de vue, ça n'engage que moi, ils incarnent aussi une génération un peu sacrifiée et une génération charnière qui, effectivement, n'a jamais eu d'espoir pour la résolution du conflit. Aujourd'hui, ils n'en ont pas eu, ils n'en ont pas, ils n'en auront pas. Ça, c'est indéniable. Ce qui, aussi, quelque part, leur amène énormément de rire et d'autodérision, parce qu'ils assument ça. Et quand je dis génération sacrifiée, c'est-à-dire que leurs parents, les générations d'avant, ont pu avoir de l'espoir. Leurs parents, tout particulièrement leurs parents, en ont eu.
Oui.
Parce que leurs parents ont connu les accords de paix d'Oslo.
Ils y ont cru.
Et il y a eu un vrai élan d'espoir à ce moment-là. Sauf que les accords de paix d'Oslo se sont soldés quelque part par un échec non pas abouti. Donc il y a eu une vraie désillusion. Et de cette désillusion a disparu l'espoir, en fait. Et ils sont nés dans ce contexte-là. Donc, ils ont cette conscience de ne pas en avoir eu. Donc, ils essayent de trouver l'espoir ailleurs, en fait. Et pour ça, les réseaux sociaux, et c'est en ça qu'ils sont aussi une génération à part, c'est en ça
ultra
que les
connectés.
Réseaux sociaux, d'être ultra connectés, a été aussi une voie. Parce qu'ils sont aussi, à contrario, ils sont la première génération à avoir accès à tous les réseaux sociaux, à des smartphones. Et ça a changé la notion de frontière, en fait. Donc, ils sont aussi riches d'autres choses. Ils peuvent voir au-delà.
Et voilà pour cette interview de Sophie Vernet, la réalisatrice de Inch'Allah peut-être. Si vous voulez l'interview en entier, elle est disponible en podcast sur beurrefm.net.
Oui, et puis allez sur TV/, où vous pouvez voir...
France TV/.
France TV/.
la plateforme on-demand de France Télévisions.
Sur France TV/, où vous pouvez voir la série en entier. Et aussi sur Spotify, parce que la BO de la série est extrêmement intéressante, extrêmement variée. Elle a été faite vraiment... La musique a été faite vraiment pour la série. Et vous avez toute la playlist sur Spotify.
Et puis sur la page Facebook de Inch'Allah peut-être, il y a aussi d'autres interviews des acteurs, c'est un peu des versions bonus des épisodes qu'on peut trouver aussi en ligne. Voilà, il y a quelque chose de vraiment d'intéressant à suivre autour de Inch'Allah peut-être. Voilà pour ce studio, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous laisse avec la suite du programme, vous, tout week-end magazine comme d'habitude, le book club de Philippe Robichon, à 13h20 votre chronique Le Prophète, 16h20 la chronique Ramadan et Solidarité, les programmes du Ramadan aussi à partir de 19h, Tour du Monde avec Manuel Mariani, à 20h Allo l'Imam avec Abdi Ali Mamoun jusqu'à 21h34, heure de rupture du jeûne aujourd'hui à Paris. Très bon week-end à tous, bon Ramadan. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi. Les podcasts à retrouver sur les applications et sur beurrefm.net. À dimanche prochain donc. Et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.